Chapitre 10. Entraîné par le trot rapide d'un cab dans la direction de Westminster, le commissaire adjoint arriva bientôt au centre même de l'Empire, sur lequel jamais le soleil ne se couche. De robustes agents de police, qui surveillaient avec placidité cet auguste berceau de tous les parlements, le saluèrent au passage. Ayant franchi diverses portes et couloirs, il arriva jusqu'à une antichambre où le jeune secrétaire écervelé et révolutionnaire l'attendait. L'élégant jeune homme dissimula l'étonnement qu'il éprouvait à voir sitôt paraître le commissaire adjoint, dont il avait l'ordre de surveiller l'arrivée vers minuit. Il en conclut que les choses allaient mal. Avec une sympathie spontanée qui, chez les jeunes gens au cœur généreux, va souvent de pair avec un tempérament enjoué, il s'attrista pour le haut personnage, qu'il appelait le patron, et aussi pour le commissaire adjoint, dont les traits lui parurent plus sinistrement figés que jamais et extraordinairement allongés. « Quel drôle de type il fait avec son air étranger !» se dit le secrétaire, tout en lui souriant de loin avec une amicale vivacité. Aussitôt qu'ils furent face à face, le jeune homme se mit à débiter des phrases avec la louable intention d'ensevelir sous une avalanche de mots l'ennui d'un échec. Il annonça que le grand assaut qu'on devait mener contre le ministre avait l'air de se transformer en fiasco. Un obscur satellite de cette brute de Cheeseman haranguait les quelques députés en séance en les accablant sous des statistiques truquées sans vergogne. Il était temps vraiment que ce bavard en finisse. Mais peut-être ne faisait-il durer ses boniments que pour permettre à ce goinfre de Cheeseman de dîner à loisir. Malgré tout, il n'y avait pas moyen de persuader au patron de rentrer. « Il va vous recevoir immédiatement, j'espère. Il est seul, dans une petite salle, à réfléchir sur les poissons de la mer, » ajouta allègrement le jeune homme. « Venez par ici. » Malgré la bonté de son cœur, le secrétaire privé d'émoluments surtout, était accessible aux défaillances communes à l'humanité. Il ne voulait certes pas tracasser le commissaire, en qui il voyait un homme qui a piteusement échoué dans son entreprise. Mais sa curiosité était trop forte pour être contenue par un sentiment de simple commisération. Tout en précédant le fonctionnaire, il ne put s'empêcher de lancer d'un ton guilleret par-dessus son épaule « Et votre fretin ?»« Il est pris, » répondit le commissaire adjoint, avec une concision qui n'excluait pas tout désir de conversation. « Bon, vous n'avez pas idée comme ces hauts personnages détestent les menus des appointements. » Après cette observation profonde, le sagace secrétaire parut réfléchir. Du moins garda-t-il le silence pendant quelques secondes. Puis il reprit « J'en suis heureux, mais vraiment, est-ce aussi dénué d'importance que vous le dites ? Savez-vous ce qu'on fait avec du fretin ?» demanda à son tour le commissaire adjoint. « On l'enferme quelquefois dans une boîte à sardines, » plaisanta le secrétaire, dont la compétence en matière de pêche et de poisson était récente et immense, en comparaison avec son ignorance des autres branches de l'industrie. « Sur les côtes d'Espagne, il y a des usines de conserve où on fait des sardines. » Le commissaire s'empressa d'interrompre l'apprenti homme d'État. « Oui, oui, mais on sacrifie parfois du fretin pour attraper une baleine. »«
Une baleine ? Bigre !» s'écria le jeune homme interloqué.
« Vous pêchez la baleine, alors ?»«
Pas exactement. La bête que je cherche à prendre ressemble plutôt à un squal.
Vous ne savez peut-être pas à quoi ressemble un squal. »«
Oh, si ! Nous sommes plongés jusqu'au cou dans les ouvrages spéciaux, toute une bibliothèque, avec des planches coloriées. C'est un animal nuisible, à l'aspect féroce, absolument exécrable, avec une sorte de masque lisse et des moustaches. »«
La description est exacte. » complimenta le commissaire. « Seulement, le mien a rasé ses moustaches. Vous le connaissez. C'est un animal fort spirituel. »«
Je le connais, » protesta le secrétaire incrédule. « Je ne puis m'imaginer où j'aurais pu le rencontrer. »«
Aux explorateurs, sans doute, » précisa calmement le commissaire. Au nom de ce club où le choix des membres était si exclusif, le jeune homme s'arrêta court, complètement ahuri.
« Vous plaisantez. Que voulez-vous dire ? Un membre du club ? Fit-il d'un ton anxieux.
Un membre honoraire, répondit le commissaire entre ses dents.
Pas possible.
Le secrétaire avait un air si effaré que le commissaire adjoint eut un sourire fugitif.
Ceci est strictement entre nous, spécifia-t-il.
Voilà bien la plus abominable chose que j'ai entendue de ma vie, déclara le jeune homme, accablé comme si l'étonnement l'avait sur l'instant frustré de toute sa vivacité.
Le commissaire lui lança un coup d'œil froid. Pendant le reste du parcours, le secrétaire observa un silence solennel et scandalisé, comme s'il tenait rancune à son interlocuteur d'avoir révélé un fait aussi désagréable et aussi troublant, fait qui révolutionnait son idée de la sévère sélection du club des explorateurs et de sa pureté aristocratique. Le secrétaire n'était révolutionnaire qu'en politique. Il désirait conserver intacts ses sentiments personnels et ses préjugés sociaux pendant les années qu'il lui était départi sur cette terre, qu'après tout il estimait un endroit agréable pour y vivre. Il s'effaça. « Entrez sans frapper, » dit-il. Des écrans de soie verte masquaient toutes les lampes, répandant autour d'elle une atmosphère de sous-bois. Les yeux hautains du grand homme étaient le côté délicat de son physique, faiblesse soigneusement enveloppée de mystère, aussi ne négligeait-il aucune occasion de les reposer consciencieusement. En entrant, le commissaire ne vit d'abord qu'une main blanche et potelée, supportant une grosse tête et dissimulant la partie supérieure de la face pâle et bouffie. Un casier de Marocain était ouvert sur la table, voisinant avec quelques feuilles de papier rectangulaires, une poignée éparpillée de plumes d'oie, autour d'une statuette de bronze drapée d'une toge et mystérieusement attentive dans son immobilité imprécise. Le grand personnage ne daigna manifester ni surprise, ni impatience, ni sentiment d'aucune sorte. Il protégeait ses yeux menacés, et cette posture lui donnait l'aspect de la profonde méditation. Mais le ton de ses paroles démentait cette attitude. « Eh bien, qu'avez-vous découvert? Seriez-vous tombé sur quelque fait imprévu dès le premier pas ?»«
Non, aucun fait imprévu. Ce que j'ai découvert, surtout, c'est un état psychologique. »«
Soyez clair, je vous prie. »«
Oui, Sir Ethelred. »
Vous n'ignorez pas que la plupart des criminels sont, tôt ou tard, pris d'un besoin irrésistible de confession, un besoin de s'ouvrir à quelqu'un, n'importe qui. Chez ce Verloc, que Heath tenait tant à garantir, je me suis trouvé en présence d'un homme dans cet état particulier. Il s'est, pour ainsi dire, jeté à ma tête. Il m'a suffi de lui révéler ma qualité et d'ajouter « Je sais que vous êtes le fauteur de cette affaire ». Il eût pu lui paraître miraculeux que nous soyons déjà au courant. Mais il passa par là-dessus. L'étrangeté de la chose ne l'arrêta pas un instant. À ma première question, « Qui vous a poussé à cela ?» il répondit avec une fureur vindicative qui ne laissait aucun doute sur sa sincérité. Pour la seconde, « Quel est l'homme qui a pu consentir à se dévouer ainsi ?» je réussis à démêler que celui qui lança la bombe était son beau-frère, presque un gamin, faible d'esprit. « C'est une affaire assez curieuse. » Peut-être trop longue à relater à présent. Et qu'avez-vous appris en dehors de ces détails?
J'ai appris d'abord que le condamné Gracier Michaelis n'a rien à voir là-dedans, quoique, à la vérité, le gamin a demeuré chez lui pendant les derniers 15 jours jusqu'à ce matin à 8 heures. Il est plus que probable que Michaelis ne sait encore rien en ce moment.
En êtes-vous certain?
Tout à fait certain, Sir Ethelred.
Ce Verloc est venu de bonne heure chercher le garçon sous prétexte de faire avec lui une promenade. Comme ce n'était pas la première fois que le fait se produisait, Michaelis n'a pu en concevoir le moindre soupçon. Quant au reste, Sir Ethelred, l'indignation de ce Verloc n'a rien laissé d'obscur, absolument rien. Il a perdu la tête à la suite d'une menace qu'il nous serait difficile de prendre au sérieux, mais qui produisit évidemment sur lui une profonde impression. Le commissaire donna à grands traits au ministre, toujours immobile et les yeux toujours abrités derrière l'écran de sa main, un résumé de l'opinion qu'avait M. Verloc des procédés et du caractère de M. Vladimir. Le grand personnage se borna à dire « Tout ceci me paraît fantastique. » N'est-ce pas? On pourrait voir là une sorte de plaisanterie féroce. Mais notre homme l'a prise au sérieux, semble-t-il. Il s'est vu à la veille de perdre son gagne-pain. J'imagine qu'il s'affola, qu'il s'indigna. J'ai l'impression très nette qu'il se figura que ces gens de l'ambassade étaient parfaitement capables non seulement de le congédier, mais de le dénoncer, de le brûler d'une manière ou de l'autre. « Combien de temps êtes-vous resté en colloque avec lui ?» interrompit Sir Ethelred derrière sa main potelée.
« 40 minutes, dans une sorte d'hôtel borgne où j'avais retenu à tout hasard une chambre pour la nuit.
il me parut sous l'empire de la réaction qui suit le forfait. Il serait toutefois injuste de le prendre pour un criminel endurci. Il est visible qu'il n'avait pas prévu la mort de son jeune beau-frère. Cette issue fatale, je l'ai bien senti, l'a vivement ému. Peut-être l'aimait-il, ce garçon, qui sait? Il peut très bien avoir compté que le gamin s'en tirerait indemne, auquel cas il eût été presque impossible d'inculper qui que ce soit. Du moins ne risquait-il consciemment d'autres désagréments que d'être arrêté. Le commissaire suspendit le cours de ses conjectures pour réfléchir un moment. Pourtant, en ce cas, comment eût-il pu espérer tenir secrète sa participation dans l'affaire? Voilà ce que je ne sais pas, reprit-il, ignorant l'affection du pauvre Stevie pour M. Verloc, pour le bon M. Verloc. Le mutisme dans lequel l'innocent était capable de s'obstiner, et qui, à propos de l'affaire de jadis, lorsqu'il avait allumé des pétards dans l'escalier de son patron, résista à tous les moyens d'investigation, prières, cajoleries, menaces, qu'employa sa sœur pour découvrir les motifs de cet acte, car Stevie était loyal. Je n'en sais vraiment rien. Il est possible qu'il n'y ait pas pensé du tout. Si extravagante que l'image paraisse, Sir Ethelred, il est dans l'état d'esprit d'un homme qui, s'étant suicidé dans le but de mettre un terme à tous ses tourments, s'aperçoit qu'il n'a en aucune manière atteint ce résultat. Le commissaire formula cette comparaison avec une certaine timidité. Mais le langage le plus fantaisiste comporte une sorte de lucidité. Un mouvement saccadé du grand corps à demi perdu dans l'ombre des écrans de soie verte, de l'énorme tête appuyée sur la large main, accompagna un son intermittent, étouffé, mais puissant. Le grand personnage avait ri. Qu'avez-vous fait de cet individu? Le commissaire ne fit pas attendre sa réponse. Comme il paraissait fort désireux de retourner auprès de sa femme, je l'ai laissé libre, Sir Ethelred. Vous l'avez laissé libre? Mais il va se sauver. Pardon, ce n'est pas mon avis. Où irait-il? En outre, n'oublions pas qu'il lui faut se préoccuper du danger qu'il encourt du fait de ses acolytes. En ce moment, il n'a pas l'énergie morale nécessaire pour prendre une détermination. Permettez-moi aussi de vous faire remarquer que si je l'avais retenu, c'eût été nous engager dans une voie au sujet de laquelle je désirais auparavant connaître vos intentions précises. Le grand personnage se leva lourdement, forme imposante et vague dans la lumière verdâtre de la salle. Je m'entretiendrai ce soir même avec la tournée générale, et demain matin, je vous ferai mander. Avez-vous autre chose à me dire à présent? Je ne crois pas, répondit le commissaire, qui s'était levé aussi, mince et souple. À moins d'entrer dans les détails, ce qui... Non, pas de détails, je vous prie. La masse énorme et vague parut se reculer, comme mue par une répugnance physique pour le détail, puis elle se porta en avant, pesamment, offrant une large main. Et vous dites que cet homme est marié? Oui, Sir Ethelred, répondit le fonctionnaire en serrant respectueusement la main tendue. Une épouse légitime, une existence conjugale régulière. Il me raconta qu'à la suite de son entretien avec M. Vladimir, il aurait volontiers tout envoyé promener, vendu sa boutique et quitté le pays, n'eût été sa conviction que sa femme ne voudrait même pas entendre parler de s'en aller au loin. C'est une preuve caractéristique de l'authenticité de ses liens, poursuivit le commissaire d'un air entendu, car lui aussi avait une femme qui refusait de s'expatrier. Oui, une épouse authentique. Et la victime était bien réellement son beau-frère. Jusqu'à un certain point, nous nous trouvons en présence d'une tragédie domestique. Le commissaire sourit à cette réflexion, mais les pensées du grand personnage semblaient envoler bien loin. Elles étaient revenues sans doute au problème pressant de la politique intérieure de son pays, champ de bataille où s'exerçait sa vaillance ancestrale de croisée contre l'infidèle Cheeseman. Le commissaire sortit inaperçu, oublié déjà. C'était comme un point de départ providentiel. Il avait à cœur de commencer sans perdre de temps. Il reprit lentement à pied le chemin de son domicile, méditant en route son entreprise et examinant avec une répugnance mêlée de satisfaction la psychologie de M. Verloc. Arrivé chez lui et trouvant le salon sans lumière, il monta au premier étage. Se partageant entre la chambre à coucher et le cabinet de toilette, il changea de vêtements, allant et venant avec l'air d'un somnambule préoccupé. Mais il chassa tout souci avant de partir rejoindre sa femme chez la grande dame qui protégeait Michaelis. Il savait qu'il serait bien accueilli. En pénétrant dans le plus petit des deux salons, il aperçut sa femme au milieu d'un groupe près du piano. Un jeune homme, compositeur d'avenir, discourait du haut de son tabouret, s'adressant à deux personnages corpulents qui, vus de dos, paraissaient âgés, et à trois dames minces qui, du même point de vue, paraissaient jeunes. Derrière son paravent bleu, l'hôtesse entretenait deux privilégiés, un homme et une femme, assis côte à côte sur des fauteuils, au pied de la chaise longue. Elle tendit la main au commissaire. « Je n'espérais pas vous voir ce soir. » Annie m'avait dit « Oui, je n'attendais pas moi-même que mes affaires fussent sitôt terminées. » Et il ajouta plus bas « Je suis heureux de vous apprendre que Michaelis est absolument en dehors. » La bienfaitrice de l'ex-condamné reçut cette assurance avec indignation. « Quoi, serait-il assez stupide chez vous pour le mêler à... »« Pas stupide, » contredit doucement le commissaire. « Trop habile, parfois de moitié, voilà tout. » La conversation tomba sur ces mots. Le monsieur, assis au pied de la chaise longue, s'était arrêté de converser avec sa voisine, et il écoutait, sa figure figée dans un sourire. « Ne vous êtes-vous déjà rencontrés ?» interrogea la grande dame. Présentés l'un à l'autre, monsieur Vladimir et le commissaire lièrent connaissance sur le pied d'une courtoisie cérémonieuse et méfiante. « Il cherchait à me faire peur, » fit tout à coup la voisine de monsieur Vladimir, avec un petit signe de tête à son adresse. Le commissaire connaissait cette dame. « Vous n'avez pas du tout l'air d'une personne effrayée, » déclara-t-il, après l'avoir dévisagée consciencieusement de son regard las et égal. En lui-même, il songeait que, dans cette maison, on finissait toujours par rencontrer n'importe qui. La figure rose de monsieur Vladimir s'était creusé de fossette à l'accusation de sa voisine, comme s'il se disposait à se défendre gaiement, mais dans son œil, il y avait une lueur qui ne parlait pas de gaieté. « En tout cas, corrigea la dame, il n'a rien négligé pour m'épouvanter. » « La force de l'habitude, peut-être, » murmura le commissaire, mu par une inspiration irrésistible. « C'était à propos de cette explosion de Greenwich Park, » reprit-elle d'une voix qui était comme une caresse lente. Il menace la société de toutes sortes d'horreurs. Il paraît que nous devrions tous trembler sur nos jambes à la perspective de ce qui nous attend si l'on ne supprime au plus tôt ces gens-là sur toute la surface du globe. Je n'avais pas idée que la situation fût si grave. Monsieur Vladimir feignait de ne pas entendre. Penché sur le canapé, il engageait promptement avec son hôtesse un nouveau sujet d'aimable entretien. La réponse du commissaire lui parvint toutefois fort nettement. « Je ne doute pas que M. Vladimir n'ait une idée très exacte de l'importance réelle de cette affaire. » Et tout en continuant son badinage, le diplomate se demandait où voulait en venir cet intrus de policier. Descendant de générations longuement victimes d'un pouvoir arbitraire, il avait, par héritage de race, de nation et de famille, l'horreur de la police. C'était chez lui faiblesse originelle, échappant au contrôle de son jugement, de sa raison, de son expérience. Il était né avec cette faiblesse. D'ailleurs, cet instinct analogue à l'horreur irraisonnée qu'éprouvent certaines personnes pour les chats ne diminuait en rien son immense mépris de la police anglaise. Il acheva la phrase spirituelle qu'il avait commencée et se tourna nonchalamment vers le commissaire. « Vous voulez dire sans doute que nous avons une grande expérience de ces gens. Il est vrai. » Nous avons beaucoup à souffrir de leur activité, tandis que vous, monsieur Vladimir hésita un moment, il souriait d'un air perplexe, au lieu que vous, vous souffrez volontiers leur présence parmi vous, termina-t-il avec un rire qui accusa les fossettes de ses joues roses et rasées. Puis il ajouta d'un ton plus grave, je dirais même que nous en souffrons parce que vous les souffrez. Quand monsieur Vladimir se tut, le commissaire adjoint détourna son regard, et la conversation en resta là. Bientôt après, le diplomate prit congé. Dès qu'il eut le dos tourné, le commissaire se leva. « Je vous croyais venu pour rester un peu et ramener Annie, » dit la bienfaitrice de Michaelis. « Il se trouve que j'ai encore un petit travail à faire ce soir. Au sujet de... Eh oui, en un sens. Dites-moi, qu'est-ce au fond que cette horrible affaire ?»« Assez difficile à préciser pour le moment, mais il se peut que cela devienne une cause célèbre. » Le commissaire quitta en hâte le salon. M. Vladimir était encore dans le vestibule, en train de s'emmitoufler dans un large foulard de soie. Derrière lui, un valet de pied attendait, lui présentant son pardessus. Un autre, près de la porte, s'apprêtait à l'ouvrir. Le commissaire, s'étant fait aider pour se vêtir, sortit aussitôt. Après avoir descendu le perron, il s'arrêta comme s'il réfléchissait sur la direction à prendre. Ce que voyant, par la porte restée ouverte, M. Vladimir s'attarda dans le vestibule pour sortir un cigare et demanda du feu. Un vieux domestique lui rendit ce service avec une paisible sollicitude. Mais dans le courant d'air, l'allumette s'éteignit. Alors le valet de pied ferma la porte et M. Vladimir put à loisir allumer son gros havane. Quand enfin il quitta la maison, il constata avec dépit que le damné policier était toujours de planton sur le trottoir. « Est-ce qu'il m'attendrait, par hasard ?» se dit M. Vladimir, scrutant les deux bouts de la rue dans l'espoir d'y voir apparaître un cab, mais il n'en vint pas. Des voitures de maître attendaient, rangées le long du trottoir, leurs lanternes brillant d'un éclat fixe, les chevaux immobiles comme s'ils eussent été de pierre, et les cochers, raides sous leurs pèlerines de fourrure, n'avaient même pas un tressaillement qui eût agité les lanières de cuir blanc de leurs fouets. M. Vladimir partit à pied, et le « damné policier » se mit à cheminer près de lui, coude à coude, sans dire un mot. M. Vladimir sentit la colère et le malaise l'envahir. Cela ne pouvait pas durer. « Fichu temps !» grogna-t-il furieux. « Plutôt doux !» fit tranquillement le commissaire, qui laissa s'écouler quelques secondes, avant d'ajouter d'un ton flegmatique « Nous avons mis la main sur un individu du nom de Verloc. » M. Vladimir ne broncha pas. Il n'eut ni mouvement de recul, ni la moindre modification dans son allure. Mais il ne put s'empêcher de s'écrier « Quoi ?» Le commissaire adjoint ne répéta pas. « Vous le connaissez, » poursuivit-il sur le même ton. Alors M. Vladimir s'arrêta, et d'une voix gutturale « Qu'est-ce qui vous fait supposer cela ?»« Je ne le suppose pas, c'est Verloc qui l'affirme. »« Une espèce de chien de menteur !» répliqua M. Vladimir, usant d'une phraséologie quelque peu orientale. Mais dans son fort intérieur, il était confondu de l'habileté quasi miraculeuse de la police anglaise. Son revirement d'opinion à ce sujet fut si violent, sur le moment, qu'il en ressentit comme un haut-le-cœur. Il jeta son cigare et reprit sa marche. « Ce qui me plaît dans cette affaire, continua le commissaire, toujours calme, c'est qu'elle peut servir à amener une réforme dont la nécessité se faisait sentir tous les jours davantage. Débarrasser le pays de tous les espions politiques à la solde de l'étranger, de cette contre-police et de cette sorte de chien, comme vous dites. À mon avis, il constitue un véritable fléau, en même temps qu'un élément de danger. Nous ne pouvions les pourchasser individuellement. La seule façon d'agir est de rendre leur emploi malaisé à ceux qui les paient. Cela devenait scandaleux et dangereux pour nous. Ici. Que voulez-vous dire? Les poursuites dirigées contre ce Verloc démontreront clairement le danger et le scandale. Personne n'aura foi en la parole d'un homme de cet acabit, jeta M. Vladimir méprisant. La nature des preuves et la précision des détails ne laisseront place pour aucun doute dans la grande masse du public, affirma courtoisement le commissaire. Alors, vous songeriez sérieusement à mettre au jour ces détails? « Nous avons arrêté l'homme, nous n'avons pas le choix. Vous ne parviendrez qu'à exalter l'hypocrisie de toutes ces canailles révolutionnaires, » protesta M. Vladimir. « Qu'avez-vous besoin de faire ce scandale? Par raison de moralité ou quoi ?» L'angoisse de M. Vladimir était visible. Le commissaire s'étant de cette façon assuré qu'il devait y avoir quelque vérité dans les déclarations de Verloc, ajouta d'un ton détaché « Il y a à cela aussi un côté pratique. » Nous avons vraiment assez de besogne à surveiller l'anarchisme authentique, et vous ne pouvez dire que nous échouons dans cette tâche. Mais nous sommes fermement résolus à ne nous laisser troubler sous aucun prétexte par des agents provocateurs. Le ton de M. Vladimir se fit hautain. Pour ma part, je ne puis partager votre façon de voir, qui est égoïste. Mes sentiments pour mon pays sont à l'abri de tout soupçon, mais j'ai toujours eu cette conviction que nous devons en outre nous montrer bons Européens, tout au moins les gouvernements et les gens. « D'accord, » répliqua le commissaire avec simplicité. « Seulement, vous voyez l'Europe de son autre extrémité. » Mais, reprit-il avec bonne humeur, « les gouvernements étrangers ne peuvent équitablement se plaindre de l'incurie de notre police. Voyez cet attentat. Le cas était d'autant plus difficile à débrouiller qu'il s'agissait d'une simulation. Eh bien, en moins de 12 heures, nous avons établi l'identité d'un individu littéralement mis en miettes, nous avons découvert l'auteur du forfait, et nous avons même entrevu son instigateur à l'arrière-plan. Nous aurions pu aller plus loin encore, mais nous nous sommes arrêtés sur les limites de notre territoire. Ainsi, ce crime a été tramé à l'étranger, sans qui rapidement, monsieur Vladimir. Vous admettez qu'il a été tramé en dehors ?
Théoriquement, oui, par fiction seulement, expliqua le commissaire adjoint, faisant ainsi allusion au caractère exterritorial des ambassades, qui sont supposées être parties et dépendances du pays auquel elles appartiennent.
Mais c'est un détail. Je vous ai parlé de cette affaire parce que c'est votre gouvernement qui se plaint le plus de notre police. Vous voyez que nous ne sommes ni aussi insoucieux, ni aussi incompétents qu'on nous dépeint. J'avais particulièrement à cœur de vous informer de notre succès.
Soyez sûr que je vous en suis très reconnaissant, murmura entre ses dents monsieur Vladimir.
Nous sommes en mesure de mettre immédiatement la main sur chacun des anarchistes qui séjournent ici, poursuivit le commissaire, comme s'il citait les paroles de l'inspecteur Heath. Tout ce que nous désirons à présent, c'est de nous débarrasser de l'agent provocateur. Monsieur Vladimir fit signe à un cab qui passait. Vous n'entrez pas ici ? Le commissaire désignait un édifice de belle apparence, dont les fenêtres brillamment éclairées illuminaient le vaste perron. Mais monsieur Vladimir, s'installant l'œil dur dans la voiture, s'éloigna sans répondre. Le commissaire, lui non plus, n'entra pas dans le vestibule somptueux du club des explorateurs. Et il lui vint à l'idée que monsieur Vladimir, membre honoraire du cercle, n'y serait pas vu bien souvent à l'avenir. Il consulta sa montre. Elle ne marquait que 10 heures et demie. Sa soirée avait été bien remplie.